Europe 1.
h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël et j'ai la chance de co-animer chaque après-midi de 16h à 18h, historiquement vôtre en tandem avec un type d'une bienveillance exceptionnelle, un chef d'orchestre aguerri qui, à la fin de chaque émission, nous dit
« C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà !»
Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu. Alors, moi, si gentil, si prévenant,
mais c'est vrai.
Je me suis d'abord demandé pourquoi ce son de Louis de Funès. Et enfin, j'ai compris.
Oh Dieu, que vous êtes vif! Oui, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on vous fait découvrir trois personnages que rien ne relie sur le papier, sauf qu'en creusant un peu, eh ben, ils ont un point commun. Aujourd'hui, Louis de Funès, Karl Marx et l'incroyable Hulk.
Camoulox!
Ah oui, c'est ce que je me suis dit aussi dans un premier temps, sauf que de Funès, Hulk et Karl Marx ont bel et bien un point commun. Ils sont tous les trois verts. Hulk, ça saute aux yeux, Karl Marx un peu moins, et vous allez voir que Louis de Funès était un pionnier de l'écologie et du bio.
Et oui, vous l'avez compris, chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, on revisite l'histoire de A à Z, de Alexandre le Grand à Zorro. Et au sommaire aujourd'hui, et comme chaque jour, trois chroniqueurs qui vous en font voir de toutes les couleurs. Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne dans l'intimité de l'histoire à la découverte des petits secrets des grands de ce monde. Bonjour Clémentine.
Oui, bonjour messieurs. Alors vous savez, moi j'aime bien prendre le contre-pied de vos thématiques. Alors aujourd'hui, vous voulez nous la jouer écolo, bucolique? Eh bien moi, je vais vous donner du bubonique. Vous voulez nous parler des fleurs des champs? Eh bien moi, je vais vous parler des fleurs de peau, des fleurs du mal, pustules, anthrax, furoncles, érysipèles et autres alléchantes éruptions cutanées.
Mon Dieu, mais vous aimez ça? Elle y met, je sais pas, vous avez l'air de trouver
une certaine gourmandise.
Oui, gourmandise de la pustule.
Moi aussi, je peux être sadique, Mathieu.
Très bien, j'avais bien compris, oui.
Eh bien, lui remonte le temps pour nous raconter les origines d'un objet de notre quotidien, d'une invention, d'une passion. David Castello-Lopez.
Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet, l'objet préféré, en fait, des écolos, hein, qui est l'éolienne.
Ah, c'est, la fameuse éolienne.
Oui, voilà, c'est cet objet que les gens qui habitent à côté détestent.
Mais non, Stéphane, oui, n'est pas fan de l'éolienne. Il y a un truc, il y a un dossier là.
Quand vous êtes à la campagne et que ça empêche vos vaches de dormir.
Mais c'est ça, les gens qui habitent à côté, ils détestent.
Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, Stéphane,
qui habitons en centre-ville.
On fait des centrales nucléaires? Ça, c'est un débat qu'on aura. À ma gauche, Stéphane, il a été élu. À ma droite, Stéphane, il a été élu en 2020 pire imitateur de Louis de Funès.
C'était très bien.
Mais il est très compétent en matière de gastronomie. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour, je vous referai une petite imitation
tout à l'heure.
Si ça vous fait plaisir. Moi, je vais vous parler d'un des emblèmes de la gastronomie française, de la France tout court même, pourrais-je dire, puisque quand on décrit, donc quand on dépeint le français à l'étranger, c'est le béret et...
La baguette.
Eh bien, la baguette, d'où vient-elle cette fameuse baguette? Eh bien, j'essaierai d'éclairer votre lanterne tout à l'heure. Baguette bio, évidemment.
Hein. Je crois qu'il y a des débats sur l'origine de la baguette.
Ah oui,
vous avez choisi une hypothèse ou...
Prévoyez trois quarts d'heure, une heure.
Ça marche, on aura un vrai débat là-dessus, en trois parties.
Débat, ouais.
Et puis Stéphane n'y coupera pas, même si c'est souvent plus douloureux pour lui qu'un test Covid. Le quiz qui vous permet de vérifier ses vraies compétences en histoire. Burn to be alive, ça sera vers 5h-10.
Mais on commence tout de suite avec vous, David Castello-Lopez, historiquement vôtre. C'est parti pour aujourd'hui.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre qui commence comme de juste par le biais de celui qui passe son temps à essayer de comprendre d'où vient chaque objet.
Je trouve que c'est une activité chelou.
C'est pourtant celle que vous avez choisie de votre plein gré, ce qui fait de vous un être encore plus chelou. La preuve encore aujourd'hui, David.
Tout à fait. Alors, vous savez, moi j'aime... vous me connaissez pas encore super bien, mais j'aime de
On
moins en...
On commence à avoir une petite idée du bonhomme quand même. Hein.
J'aime de moins en moins le vent. Voilà. J'aime de moins en moins le vent à cause de mes cheveux. À une époque, vous savez, j'avais une densité capillaire admirable.
Ah, ça, on en est tous là.
Et vraiment, le vent mettait cette densité en valeur.
Oui.
Dès qu'il y avait un coup de vent, j'avais l'air à la fois sensible et sexy. Mais maintenant, à mesure que ma ligne capillaire recule, le vent a surtout pour effet de la faire apparaître. Et du coup, j'aime plus trop. Vous voyez, du point de vue de ma sexitude, de la sexitude, le vent est devenu mon ennemi. Donc c'est un problème, mais je suis quand même obligé de reconnaître que le vent a deux qualités objectives. Un, il est disponible en quantité infinie, et deux, il est gratuit. Et donc évidemment, tout ça, ça en fait une des sources d'énergie les plus tendances du moment. Le monde aujourd'hui se couvre d'éoliennes, qui comptent au passage quand même parmi les créations les plus élégantes, je trouve, et les plus graphiques du monde contemporain, et qui produisent chaque année en France un peu plus de 6% de l'électricité dont on a besoin.
Toutes ces éoliennes, ça fait 6% seulement de l'électricité.
Oui, bah voilà, mais on est un gros pays quand même. Voilà, l'électricité dont on a besoin hein, pour plein de choses, et notamment pour parler de ses cheveux à la radio. Mais alors, d'où viennent les éoliennes? Alors bien sûr, on ne sait pas qui est la première personne qui a compris que le vent était une source d'énergie. Moi, personnellement, je pense que ça doit être quelqu'un qui a remarqué que ses cheveux bougeaient tout seuls dans certaines situations et qu'il était plus sexy et qui a dû se dire « Attends, mais si ça fait bouger mes cheveux, peut-être que ça pourra faire bouger d'autres trucs. » Par exemple, je sais pas, des bateaux. Et paf, le bateau à voile, il y a 5000 ans à peu près, qui était sans doute né d'une observation sur les cheveux. Bon, et là, c'est parti. Hein. Petit à petit, on a commencé à utiliser le vent pour actionner des moulins à farine, des pompes à eau. Hein. C'est surtout avec des pompes à eau actionnées par le vent que les Hollandais, par exemple, ont enlevé toute la mer qu'il y avait en trop dans leur pays, hein, de façon à en faire un pays de taille plus respectable. Mais bien sûr...
Ça s'appelle des polders.
Ça s'appelle des polders.
Et non pas des pole dance.
Mais bien sûr, une éolienne, ce n'est ni une pompe à eau, ni un moulin à farine. C'est une machine à produire de l'électricité. Et donc, pour que l'éolienne existe, il fallait que l'électricité existe. Vous voyez qu'on apprend des trucs hein, avec moi.
Ah oui.
Les débuts de la production d'électricité, c'est le milieu du 19e siècle. La première ville éclairée à l'électricité en France, c'est Bellegarde-sur-Valserine, dans l'Ain, en 1884.
Que s'est-il passé dans cette ville d'historique, Stéphane? Est-ce que vous le savez?
Vous avez...
1998. Je passe mon bac de français à Bellegarde.
Ah, voilà,
eh oui,
À Bellegarde.
Exactement. Je veux dire que rien que le fait d'aller à Bellegarde, c'était une punition. Oui, je l'ai eu, Stéphane. Je vous rassure.
Avec mention.
Oui, je vous remercie.
C'était le bac français, c'était le premier.
Ouais. Oui, voilà.
Mais donc 1884, Bellegarde-sur-Valserine. Il a fallu attendre 4 ans de plus pour que l'éolienne soit inventée dans l'État américain de l'Ohio par un monsieur qui s'appelait Charles Brush. Charles, c'était une sorte de petit geek énervant du 19e siècle. Vous voyez, le genre de gars sur lequel on copie ses contrôles de maths. Enfin, en tout cas, moi. Je le faisais. Mais bon, autant les maths, c'est pas cool quand on veut faire l'amour plutôt que les autres, autant c'est super utile pour ensuite avoir un bon métier et réussir dans la vie, et du coup, peut-être faire l'amour.
Vous voyez, vous le dire, oui, bien sûr.
D'un point de vue érotique, les maths, c'est donc une sorte de placement hein, sur l'avenir. Et Charles Brush, il avait bien compris ça. Il a inventé plein de trucs hein, qui concernent l'électricité. Et en 1887, dans la grosse propriété qu'il avait fait construire avec l'argent des maths, eh bien, il a fabriqué ce qui est, dans l'état actuel des connaissances des historiens, la première éolienne de l'histoire du monde. Son éolienne, elle faisait 18 mètres de haut, ce qui est en gros la taille d'un immeuble parisien, et il s'en servait juste pour éclairer sa maison. Pour vous donner une idée, la Halyard X de General Electric, qui sera mise en service en 2021, elle fait 260 mètres de haut.
Mais non.
C'est 50 mètres de plus que
c'est
la tour
chouette.
En Parnasse.
Ah oui, c'est très chouette. J'espère qu'ils vont la mettre dans Paris quand même.
Ah, c'est prévu. Non, ce sera dans la mer en fait. Ce sera une éolienne offshore.
Parce que dans Paris, parce que tous les Parisiens veulent qu'on mette des éoliennes partout. Moi, je trouve qu'à Paris, on devrait
mais
en
oui,
mettre.
En plein centre. Voilà. Ouais.
Je sens l'ironie poindre dans mon Stéphanou, là. Message politique, peut-être. Vous avez un message à faire passer?
Aucun.
Utilisez d'autres canaux.
Elle sera pas juste super haute, elle produira aussi énormément d'électricité, suffisamment pour éclairer 16 000 foyers, ce qui est quand même vachement plus que l'éolienne de Charles Brush.
Elle sera au milieu de la mer.
Elle sera peut-être pas au milieu, mais offshore, en tout cas.
Vous êtes sur votre yacht, le Bern of the Seas, et tout à coup, un énorme truc comme ça.
Un énorme truc de 260 mètres.
J'aime autant vous dire que les marins sont assez contre, et notamment... Oui. je dis deux, trois choses, quand même. En tout cas, c'est passionnant, cette invention intermittente.
On a bien compris, en tout cas, on a compris l'origine de l'éolienne, on a compris aussi l'avis de Stéphane Bern sur les éoliennes.
Non.
Hein, voilà.
Non. Je ne me permettrai pas.
Évidemment, non. On a compris quand même, on enchaîne.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter chaque après-midi. Une rencontre insolite entre trois personnages très différents.
Vous avez bu Stéphane, vous êtes très enjoué quand même. Hein. Il est tôt quand même pour commencer à boire.
Ah,
oui,
c'est du thé.
C'est du thé, oui. Et surtout aujourd'hui, la rencontre très très insolite entre vous et Karl Marx. Le père du communisme par un type qui a été fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique par la reine d'Angleterre. Vous êtes sûr que vous allez y arriver Stéphane?
Avec un petit coup de rouge.
À cette circonstance.
Historiquement vôtre. Le récit.
Le philosophe Karl Marx est effectivement connu dans le monde entier pour sa critique sévère du capitalisme devenu un véritable mouvement de pensée qu'on appelle le marxisme. Après avoir rédigé avec Friedrich Engels le manifeste du Parti communiste en 1848, qui font d'eux les théoriciens du communisme, Karl Marx publie, après avoir consacré plus de 20 ans de sa vie à écrire Das Kapital, le Capital, même il est allemand, hein, donc c'est normal de le dire
oui,
en allemand.
Vous l'avez
traduit. Ça, tout le monde le sait, puisque même vous,
oui,
Mathieu, vous le savez.
Oui, je vous en prie. Je l'aurais même peut-être étudié, même dans une autre vie.
Oui. Ce que l'on sait moins, c'est que Karl Marx s'est aussi soucié de ce que nous nommons aujourd'hui l'écologie. Le philosophe économiste a cessé de dénoncer la spoliation de la nature bien avant que n'émerge la conscience verte moderne. Il avait pensé ce que certains, comme Jean-Luc Mélenchon, appellent aujourd'hui la règle verte, consistant pour un État à rembourser sa dette écologique. Il faut, dit Karl Marx, je le cite, une économie de restitution qui compenserait les prélèvements effectués sur la nature. Karl Marx critique aussi la surproduction capitaliste ainsi que le gaspillage qui en découle, terrible pour la planète. Mais je voudrais revenir quelques années avant, à l'année 1841.
Ah, s'il vous plaît.
Karl Marx a 23 ans. Un événement attire l'attention de celui qui termine ses études de philosophie à l'université d'Iéna en Allemagne. Il s'agit d'une décision du gouvernement qui interdit de ramasser les branches tombées des arbres sur certains terrains. Les plus pauvres ne peuvent donc plus glaner gratuitement du bois, ce qui était le cas auparavant. Indigné par cette privation brutale du bien commun, le jeune Karl Marx commence à s'interroger sur la notion de propriété privée. À la fin de ses études, Karl Marx devient rédacteur en chef de la Gazette Rhénane, un journal dénonçant les privilèges de l'aristocratie et prônant la fin de la monarchie autoritaire, qui est donc le régime politique prussien en place à l'époque. La Gazette Rhénane est interdite en avril 1843. Mais Marx créera une deuxième version du journal, la Nouvelle Gazette Rhénane, en 1848 avec son ami, le philosophe Friedrich Engels. Mais pour l'instant, en 1843, Karl Marx est contraint de démissionner. Fuyant la censure, il s'installe à Paris. Rapidement, il retrouve un emploi de journaliste et publie des articles très engagés contre la religion. N'oublions pas que c'est Karl Marx qui a déclaré « La religion est l'opium du peuple ». Marx est un révolutionnaire. Il s'engage contre l'exploitation du prolétariat par les bourgeois capitalistes. Il rêve d'une société débarrassée du salariat, des classes sociales, mais aussi des États. Forcément, tout ceci ne plaît pas beaucoup au gouvernement du roi Louis-Philippe, justement surnommé le roi bourgeois. Marx est donc expulsé de France en 1845. Il se replie à Bruxelles avant de revenir à Paris en recevant les premiers échos de la révolution de 1848. Cette révolution qui met fin à la monarchie de Juillet et chasse le roi Louis-Philippe Ier et établit la Seconde République. Le mouvement révolutionnaire s'étendant à l'Allemagne, Marx y fait un détour, mais là-bas, les révolutionnaires échouent. Le philosophe est arrêté, le voilà encore une fois persona non grata dans son propre pays. Karl Marx est de nouveau sur la route de l'exil et comme presque tous les grands proscrits de l'époque, il finit par s'installer vers 1850 en Angleterre avec son épouse Jenny et ses filles. C'est donc à Londres qu'il rédige son œuvre la plus célèbre, Le Capital, dénonçant l'injustice du capitalisme. Quelques mois plus tôt, il avait déjà écrit un manifeste semant les graines d'une pensée qu'on appellera bientôt le communisme. Mais, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, une autre thématique revient sans cesse dans les écrits de Marx, celle de la protection de la nature. Alors, Karl Marx, inventeur du communisme, est-il écolo ? De prime abord, ça n'est pas évident. Et oui, quand on parle du communisme, on pense à l'hyperproductivisme de l'Union soviétique, à l'assèchement dramatique de la mer d'Aral en Asie centrale ou encore à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986. Bref, l'écologie n'est pas ce qui vient immédiatement à l'esprit. Pourtant, le communiste Karl Marx aurait pu aussi adhérer au parti écologiste.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Stéphane, vous avez interrompu votre récit au moment où l'on découvrait précisément que le rouge était peut-être vert, que Karl Marx était peut-être un écolo, un ancêtre de Greta Thunberg en quelque sorte.
C'est presque ça, Mathieu. En tout cas, oui, c'est avéré, ses écrits l'ont prouvé, Karl Marx fut l'un des premiers écolos du 19e siècle. Marx a bien une conscience écologique. Je précise qu'à l'époque, le philosophe n'utilise pas le terme écologie, qui n'est pas très répandu, mais qui existe pourtant bel et bien, puisqu'il aurait été inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel. Mais même si le mot écologie est absent des écrits de Marx, l'idée y est. Il faut protéger la nature, car le capitalisme n'exploite pas seulement les travailleurs, il y a aussi la planète. Tout progrès de l'agriculture capitaliste est l'art de piller le sol, déplore le philosophe. En plus des questions agricoles, Karl Marx pointe du doigt la pollution des villes. À Londres, on n'a rien trouvé de mieux à faire de l'engrais provenant de 4,5 millions d'hommes que de s'en servir pour empester à frais énormes la Tamise, s'insurge-t-il. Pour Karl Marx, les destins de la planète et de l'homme sont liés, et le philosophe nous met en garde. Si nous ne respectons pas la nature, nous risquons de le payer plus tard. En effet, le jour où la Terre ne pourra plus reproduire ce que nous lui prenons, c'est toute l'humanité qui sera condamnée. Ça ne vous rappelle rien, Mathieu ?
Bien sûr, ça me rappelle la dette écologique, Stéphane.
C'est le même principe que la dette écologique, exactement. Nous vivons à crédit sur la planète. Savez-vous qu'en 2020, l'homme a consommé en 7 mois les ressources naturelles qui sont produites en un an par les écosystèmes ? Karl Marx rappelle que la nature ne se réduit pas à un réservoir de matières premières. Elle est aussi notre maison. Et comme les penseurs d'aujourd'hui, le philosophe s'inquiète de ce que nous allons laisser aux générations futures. Karl Marx réclame donc une solidarité intergénérationnelle. Nous ne pouvons pas continuer à faire n'importe quoi en oubliant ceux qui arriveront après nous. Et c'est incroyable comme cette réflexion, vieille de plus de 150 ans, sonne aujourd'hui terriblement juste.
Europe 1, historiquement vôtre.
Alors, pour parler de Karl Marx, le père du socialisme, il est évident, Stéphane, que vous êtes un des mieux placés. Mais par précaution et surtout rigueur journalistique, j'ai fait appel à un vrai spécialiste. Bonjour Henri Pénard-Ruiz.
Bonjour.
Oui, bonjour. Vous êtes philosophe, écrivain, maître de conférences honoraires à l'Institut d'études politiques de Paris, auteur notamment de Karl Marx, penseur de l'écologie, aux éditions du Seuil. Henri Pénard-Ruiz, c'est incroyable comme la pensée de Marx sur l'écologie fait écho à ce qu'on entend aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aller trop loin de dire que c'était l'un des premiers écolos, celui qui avait compris ce qui allait se passer ?
Non, c'est pas aller trop loin. Mais je voudrais préciser que pour Marx, la question écologique est liée intimement à la question sociale. Il faut lutter en même temps contre le capitalisme prédateur qui détruit la nature et en même temps contre le capitalisme qui exploite les prolétaires dont l'espérance de vie au milieu du 19e siècle était de 50 ans. Donc Marx a vécu à l'âge du capitalisme débridé, qui n'est pas encore tempéré par des lois sociales. Et donc, il s'insurge contre cela, mais en même temps, il fait remarquer que le capitalisme ne se contente pas d'épuiser le travailleur, mais qu'il épuise aussi le sol et ses sources de fertilité. Il faut rendre justice à Marx. Marx n'est pas plus responsable des atrocités du stalinisme que Jésus-Christ n'était responsable des bûchers de l'Inquisition. Il faut le dire encore et encore, une bonne fois pour toutes, cessons de voir Marx, le communisme de Marx, à travers le stalinisme. Dans communisme, il y a commun. Quoi de plus commun aux êtres humains que leur planète ? Stéphane rappelait tout à l'heure que la planète, c'est notre demeure. Mais Marx allait au-delà. Il considérait que le rapport entre l'homme et la nature est vital à travers le métabolisme. Prenez la fonction chlorophyllienne qui permet de renouveler l'oxygène de l'air et d'expurger le gaz carbonique. Cette fonction chlorophyllienne, c'est un bel exemple de métabolisme entre l'homme et la nature. Le jour où le carbone aura tout envahi, nous ne pourrons plus respirer. Voilà ce que Marx, effectivement, a non seulement pressenti, mais théorisé de façon forte.
C'est incroyable. On va continuer avec vous, Henri Pénard-Ruiz, de parler de Marx, pour qui l'écologie et le socialisme sont intimement liés. Et oui, aujourd'hui, sont à l'honneur nos héros verts, et en particulier Karl Marx, dans un instant sur Europe 1.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez l'émission où tout est possible, même que Stéphane Bern fasse l'éloge de l'écologie chez Karl Marx. Franchement, chapeau Stéphane, quand on sait le milieu duquel vous venez. Une fois par curiosité, votre tante a lu 3 pages du Capital.
Une demi-heure après, elle était morte.
Vraiment, c'est tout à votre honneur d'aborder ce thème aujourd'hui avec notre invité, le philosophe Henri Pénard-Ruiz, qui publie Karl Marx, le penseur de l'écologie. Alors, Henri, moi, c'est une question quand même qui me fascine, c'est comment le léninisme et le stalinisme ensuite encore plus a pu complètement balayer cet héritage vert qu'il y avait chez Marx. On a l'impression que ce n'est pas du tout quelque chose qui était présent à l'esprit des dirigeants communistes dans l'Union soviétique.
Écoutez, c'est un historien qu'il faudrait interroger. Moi, je considère que le communisme stalinien de l'Union soviétique n'a pas été l'application de l'œuvre de Marx ou de son programme, mais tout au contraire, sa caricature qui, hélas, a terni la belle idée de communisme. Et cette idée, il faut la préserver. Karl Marx, il est tellement soucieux des rythmes de l'écologie, des rythmes naturels, qu'il fait l'éloge de la sylviculture. Oui, la culture des forêts. Vous savez, pour qu'un arbre pousse, on ne peut pas se contenter de tirer dessus. Il faut respecter les cycles naturels. Évidemment, Marx n'a pas connu l'époque des mutations génétiques. On a fait des mutations génétiques pour faire pousser plus vite les pins, par exemple dans les Landes. Mais le résultat des courses, c'est que la forêt landaise a été couchée pour le tiers lorsqu'il y a eu une grande tempête, parce que les nouveaux pins, issus des manipulations génétiques, n'avaient pas de système de racines suffisant pour résister aux vents qui ont toujours existé. Donc effectivement, méfions-nous, comme dit Marx et comme disait son compagnon Engels, de nos victoires sur la nature. Victoire entre guillemets. Car la nature se venge. Elle nous rappelle à l'ordre. Ce jeune Marx, il est naturaliste, au sens où il considère que l'humanisme, le souci de l'homme, doit se concilier avec le naturalisme, le souci de la nature.
Est-ce que dans la littérature, dans Marx, est-ce qu'il y a des exemples concrets de ce que lui faisait ou de ce qu'il prenait sur le respect de l'environnement qu'il avait, Marx ?
On ne sait pas ce que Marx faisait dans sa vie quotidienne. Il ne s'en ouvre pas, si vous voulez. Mais quand il cite l'exemple de la sylviculture, quand son compagnon Engels, son ami de toujours, cite l'exemple de la déforestation dans la forêt cisalpine, en expliquant qu'en Italie, si on continue à abattre les arbres, les milieux humides disparaîtront et que par conséquent, la culture du sol sera beaucoup moins facile. Toutes ces observations émaillent le capital. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'important. Vous savez que Marx et Engels voulaient changer les rapports entre la ville et la campagne. Ils voulaient effectivement qu'on revienne à un mode de vie plus équilibré dans le sens d'un respect de la nature comme pôle indispensable à l'affirmation humaine. Quand vous pensez ce qu'a fait l'Union soviétique stalinienne, par exemple détourner deux fleuves, Amudarya et Sibaria, de la mer d'Aral, on aurait consulté les camarades pêcheurs, des soviets de pêcheurs de la mer d'Aral, on leur aurait demandé leur avis. Ils auraient dit « mais faites surtout pas ça ». Vous allez saliniser l'eau, puisque les deux fleuves apportaient de l'eau douce, les poissons vont crever, tout le milieu vital des pêcheurs, des poissons de la mer d'Aral va disparaître, la mer va s'assécher. Eh bien, on aurait pu éviter ce désastre de la mer d'Aral, qui est à mes yeux une des catastrophes écologiques les plus grandes qu'on ait plus jamais portées. C'est ce productivisme affolant de l'Union soviétique stalinienne qui, paraît-il, voulait rattraper les États-Unis d'Amérique, s'est fait contre la nature,
absolument. En tout cas, merci Henri Pénard-Ruiz pour en connaître encore davantage sur le côté vert de Karl Marx. Je vous invite à lire votre livre « Karl Marx, penseur de l'écologie » qui est sorti aux éditions du Seuil. En tout cas, c'était un bonheur de vous entendre et un grand honneur. Merci beaucoup.
Merci à vous, vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.
Merci,
vous aussi. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
2 heures de bonne humeur, généreusement nappé de savoir. Le saucier s'appelle Mathieu Noël.
Oui, alors dans le rôle de la sauce elle-même, si je dois poursuivre votre métaphore, voici à présent celle qui nous entraîne chaque après-midi dans les coulisses de l'histoire pour y découvrir les grands de ce monde sous un autre angle, moins connu. Clémentine Portier-Kettelbach n'a pas pipé mot durant le portrait de Karl Marx, même si elle savait des trucs.
Sacré baiseur, hein.
Oui, Clémentine, peut-être. Mais aujourd'hui, vous nous emmenez dans une pièce bien particulière de l'hôpital Saint-Louis à Paris.
Ah oui, c'est vrai, mais dites donc, je crois que Karl Marx était plutôt dans le genre monogame, hein. Ah, vraiment, quel beau discours, je suis estourbie, mais j'en ai peur. Nous allons quand même quitter les fraises des bois et les évocations bucoliques, parce que moi, je vous emmène à l'hôpital Saint-Louis pour parler peste bubonique. Ah oui, à la fin du XVIe siècle, Paris était touché par une grave épidémie de peste qui a fait quand même 70 000 morts. Hein. Donc, quand on voit de quoi on parle aujourd'hui avec la Covid. 1562, 70 000 morts rien qu'à Paris. Ensuite, deux grosses autres épidémies moins graves dans les années qui ont suivi. Et du coup, comme l'Hôtel Dieu était trop petit pour accueillir tous ces malades, Henri IV décide de faire bâtir une nouvelle maison de santé dédiée aux pestiférés, l'hôpital Saint-Louis. Pourquoi Saint-Louis ? Parce qu'à l'époque, on croyait que Saint-Louis était mort de la peste à Tunis au cours de la 8e croisade.
Il n'est pas mort de la peste.
En 1270. Comme si vous ne le saviez pas.
Il joue
pas.
Les ingénus.
Non mais Stéphane, il joue l'innocent, il le sait très bien, que le notre bon docteur Charlier a pu établir que Saint-Louis n'était pas mort de la peste, mais du
scorbut.
Exactement, du scorbut.
C'est vrai ?
Exactement.
C'est répondu complètement au hasard.
Il mangeait beaucoup trop de poissons et pas assez de fruits et de légumes. Voyez, on était déjà dans l'écologie.
On le dit depuis toujours, 5 fruits et légumes par jour.
Et malheureux roi Saint-Louis n'était pas au courant. Alors du coup, l'hôpital Saint-Louis, qui porte son nom, créé pour les pestiférés par Henri IV, va devenir le lieu de naissance de la dermatologie française. Alors, grande question qui se pose, et je vois qui brûle vos lèvres, messieurs, comment apprendre aux étudiants à reconnaître telle ou telle maladie de peau ? Dans un premier temps, on fait réaliser des dessins, des aquarelles, mais ça manque de relief. Alors on va essayer le carton-pâte, mais le carton-pâte, c'est trop fragile. Et puis les modèles noircissaient à la longue. Et c'est là que le docteur Lélé à l'idée de faire reproduire les maladies de peau à l'aide de moulages de cire, donnant une représentation en relief de toutes les affections cutanées.
Alors, ça a l'air de vous exciter considérablement.
Il va rencontrer, oui ça me fait rire, parce que vous savez ce qu'il fait ? Il va rencontrer un certain Jules Barretta qui fabrique des fruits en cire pour les confiseurs, pour les vitrines des confiseurs. Il est passage Jouffroy à Paris. Et donc il va voir ce gars-là et lui dit, écoutez, maintenant c'est terminé de mouler des poires et des bananes, vous allez vous mettre à mouler des mycoses et des pustules. Bon. Alors, Barretta fait son premier moulage en 1867 et aujourd'hui, je suis en mesure de vous apprendre qu'avec ses 4807 cires, la collection Barretta est la plus importante collection au monde de cires dermatologiques. Ça vous fait une belle jambe, ça.
Mais on peut l'avoir ?
Mais bien sûr. Alors, que voit-on dans ce musée ? Miam, miam.
Oh, oui.
Un vaste choix de fleurs du mal s'offre aux visiteurs dans les 162 vitrines. Alors, qu'avons-nous là ? Ah, la luxation du testicule. L'affection bien intéressante.
Ça se
luxe. Ouh, ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Alors là, nous avons le xéroderma pigmentosum et le molluscum contagiosum, pustule elle aussi croquignolette et hautement contagieuse. Et dans cette autre vitrine aussi d'ailleurs, la syphilide pustulo-crustacée qui porte bien son nom. C'est comme si vous aviez d'énormes huîtres noires, voyez, greffées sur le visage.
Des huîtres ?
Mais comme je vous connais bien, les garçons, je pense que vous préférerez sans doute le spectacle des organes monstrueusement gonflés par l'éléphantiasis ou filariose lymphatique. Alors imaginez, c'est une larve qui devient un ver et qui perturbe la circulation de la lymphe dans l'organisme. Et du coup, certaines parties du corps deviennent monstrueuses. Dans la collection Barretta, il y a un moulage d'un sexe masculin de la taille d'une patte d'éléphant, atteint d'éléphantiasis, bien sûr. Alors, le scrotum atteint d'éléphantiasis peut se remplir d'eau et peser jusqu'à 60 kilos. Bon, je vous rassure tout de suite.
À visiter avec les enfants.
Ne vous inquiétez pas, c'est très rare. Alors, je vous recommande particulièrement les 442 moulages d'affection syphilitique. Quand on voit les dégâts que pouvait produire la vérole sur le corps humain avant l'invention des antibiotiques, on comprend que nos ancêtres, en particulier les messieurs, en aient eu une peur panique. Hein, parce qu'à l'époque, en plus, on ne savait pas la soigner. On la soignait à coups de mercure et on ignorait complètement si c'était efficace. La collection Barretta doit être l'un de ces rares musées que le visiteur sonorise par lui-même avec ses exclamations horrifiées. On y pousse des cris de A à Z. Ah, oh, mais non. Ah, oh, mais c'est pas vrai. Ah, oh, mais quelle horreur. Ah, oh, mais quelle horreur.
Que alors,
on crie à mesure qu'on découvre les vitrines et quand on en sort, on est saisi du besoin pressant d'aller embrasser un dermatologue et de faire un chèque pour la recherche médicale. Tiens, tiens, mais que font donc des pommes dans la vitrine 37 mycosis fongoïdes. Elles sont là pour rappeler le temps où Barretta, plutôt que des fleurs du mal, moulait encore des fruits appétissants. C'est pas une chronique écolo, ça, hein, messieurs ?
C'est très, très écolo. Mais
merci
surtout...
beaucoup, Clémentine. Ça donne envie d'aller visiter. Mais ça fait penser, vous savez, à la vitrine du musée à Saint-Pétersbourg, créée par Pierre le Grand, où il y avait toutes les monstruosités de son temps.
Oui, ah oui, mais alors il y a aussi, c'est aussi au musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg qui est exposé le sexe de Raspoutine. Et pour ma part, je serais contente de connaître vos observations. Je pense que c'est un sexe de cheval.
Ah, c'est pas le vrai sexe de Rasputin ?
Moi, j'ai des doutes. Hein. Quand on voit le Brakmar, excusez-moi.
On voit le Brakmar, on a des doutes. Clémentine Portier-Kaltenbach reste sur Europe 1. Vous savez ce qui se profile, Stéphane ?
Oui, le quiz.
Eh oui, notre petit quiz.
Moi, je veux plus jouer, je perds tout le temps. C'est
ah,
aussi,
mais la chance peut
non,
tourner.
Non, mais je vous laisserai gagner.
Non !
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Notre émission s'intitule Historiquement vôtre, mais chaque après-midi vers 5h-10, quand un éclair de Villeni passe dans le regard de Clémentine Portier-Kaltenbach, elle pourrait être baptisée Diaboliquement vôtre. Car c'est l'heure de cet affrontement plus violent qu'un combat de coq baliné, le choc Bern-Kaltenbach. Et autant vous dire que parmi les bookmakers, il n'y en a pas beaucoup qui misent sur Stéphane.
La plupart sont des malades désespérés que la médecine ne parvient pas à aider.
Ouais, bon, on les embrasse quand même. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, vous êtes dans une bonne période. Là. Vous êtes dans une veine exceptionnelle. Question numéro 1 pour vous. Au Moyen-Âge, les hommes avaient beaucoup plus de caries qu'aujourd'hui. Vrai ou faux ?
Et les gens avaient les dents pourries à l'époque.
Oui, mais enfin, Stéphane, ils mangeaient beaucoup moins de sucre.
Oui,
il y avait très peu de sucre.
Alors, non, ils n'avaient pas de caries, mais ils avaient...
Je ne vous demande pas de faire une phrase, vous me dites vrai ou faux. Les hommes avaient beaucoup plus de caries aujourd'hui, vrai ou faux. Vous avez ce goût de faire des phrases tenant.
Ils avaient les dents pourries, mais pas cariées.
Donc la réponse ?
Et non.
Faux ?
Faux.
Vous avez gagné !
Vous avez aidé, hein. Gagné, vous pourriez me rétrocéder un petit demi-point.
Mais oui, parce que vous l'aidez tout le temps. Sinon, il va droit dans le mur.
Oui, mais parce qu'il me fait pitié, finalement, c'est moi qui perds.
Non, mais.
L'arrivée massive des sucres et de la farine raffinée à la révolution industrielle a fait chuter la diversité de notre flore bactérienne buccale dès lors que les souches responsables des caries dominent. Mais à l'époque, il y avait moins de sucre.
Mais on avait quand même les dents pourries.
On avait les dents pourries, mais pas de la faute des caries. Question numéro 2 à Clémentine Portier-Kaltenbach. On connaît la chanson « Sous le pont d'Avignon ». Mais on ne connaît pas son auteur. On disait « On y danse » parce que la chanson évoque les pendus qui étaient exécutés jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Vrai ou faux ?
On aurait pendu les... Pourquoi est-ce qu'on dirait « On y danse tous en rond » alors ?
Les pendus balancent, ils dansent. Ils dansent au gré du vent.
Ah, c'est... Ah, écoutez,
c'est
je salue l'auteur de la question parce que c'est tentant de dire oui.
Vous saluez donc, sans le savoir, la perversité de l'auteur de la question, puisque c'est une mauvaise réponse. On ne dansait pas sur le pont, mais sous le pont, car il y avait des guinguettes, figurez-vous, je ne savais pas non plus. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Les toilettes existent depuis bien longtemps.
Ça, c'est bien fait pour vous.
Durant la Rome antique...
Ça commence bien.
Durant la Rome antique, les toilettes avaient même un dieu. Vrai ou faux ? Le dieu des toilettes. Toilettus. Ça, c'est moi qui rajoute. Alors, d'après vous, Stéphane ?
Les toilettes existent depuis toujours. Il y avait dans les maisons romaines, on voit évidemment des latrines, bien sûr, il y avait des latrines. Est-ce qu'il y avait un dieu
Il
y aurait un dieu des wawa, vous voyez
dieu des wawa.
Non, je ne pense pas qu'il y avait un dieu des toilettes.
Vous avez perdu.
En même temps, on ne peut pas gagner tous les coups, Stéphane. C'était Stercutus, également le dieu des excréments.
Oh.
Il était très copain avec Crépitus, le dieu des flatulences, qui existait aussi, comme quoi les Romains savaient s'amuser.
Ouais.
Clémentine, le prince Charles a été allaité 3 mois par la reine Elisabeth. Vrai ou faux ?
Moi, je pense que c'était son aîné, qu'elle a dû vouloir bien faire, que à sa génération, on n'en était plus à prendre des nourrices pour les nouveau-nés, et que si ça se trouve, ça ne s'est pas très bien passé, donc elle a fini par choper un biberon, donc je dirais vrai.
Quel raisonnement pour aboutir à la bonne réponse ? Effectivement, c'est vrai, il est né le 14 novembre 1948. 14 novembre, beaucoup de grands hommes sont nés à cette date.
Bernard Hinault.
Oui, Stéphane Bern. Il pesait 3 kg et 345 grammes, dont 300 grammes d'oreilles. Question pour vous départager. C'est la question. C'est maintenant que tout se joue. En relisant les comptes rendus de bataille de l'époque, on sait que 2 jours après Pearl Harbor, le navire de guerre américain USS Houston a tiré 250 coups vers le ciel. Mais pourquoi ? 3 propositions. C'était pour l'anniversaire du commandant de bord. Le tireur du canon a été tué et il s'est écroulé sur le bouton « Fire ». Et ils ont vu Vénus et ils ont cru que c'était un avion.
Refaites-le meuleux, là.
Pour l'anniversaire du commandant de bord. Parce que le tireur du canon est mort, il s'est écroulé sur la machine.
Je pense que c'est ça, non ?
Ou alors ils ont vu Vénus dans le ciel, ils ont cru que c'était un avion.
Le gars,
moi, je dirais deux.
Il s'est effondré sur la machine et puis il a tiré.
Écoutons.
Vous avez perdu.
Tous les deux. Ils ont perdu tous les deux. On ne sait plus comment les départager dans la nullité. En voyant Vénus, ils ont cru que c'était un avion ennemi. Vénus est une planète et contrairement aux étoiles qui émettent leur propre lumière, Vénus réfléchit celle du Soleil. C'est une info que je vous donne et dont je ne sais même pas qui a remporté ce quiz.
Match nul, un point partout.
Un match nul de la loose, on peut le qualifier ainsi. C'est historique.
Une fois vous feriez plus. Moins de malin sans vos fiches, Mathieu Noël.
Ah oui, ça je vous confirme. Oui.
Surtout sur le dieu des toilettes. Oh là là.
Ouais,
alors,
moi, je vous et le dieu des fatulences, parce que... Crépitus. Si vous devez retenir une chose de cette émission, parce qu'on a parlé du marxisme, on a parlé de la pensée philosophique puissante de Marx. Non. Retenez Crépitus, le dieu des flatulences.
Mmh. 16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est l'heure pour moi, chers auditeurs, de vous faire une confidence. Quand la direction d'Europe 1 m'a proposé de collaborer avec Stéphane Bern au sein d'une émission qui mélangerait histoire rigoureuse et déconne potache, je peux le dire aujourd'hui, je doutais des capacités de l'illustre présentateur de Secrets d'Histoire en matière de déconne potache. Et puis très vite, enfin surtout depuis mardi et son portrait de Buzz Aldrin, j'ai compris. En fait, c'était moi qui allais devoir incarner la dimension sérieuse de cette émission.
Buzz Aldrin n'a pas fait que célébrer une messe, c'est aussi le premier qui a fait pipi sur la lune.
Heureusement, historiquement vôtre, ce n'est pas que les pitreries de Stéphane, c'est aussi un programme solide.
Bien sûr Mathieu, au sommaire de cette deuxième heure, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe, va mener une chronique de main de maître en nous menant à la baguette de pain évidemment. Et il nous en donnera la recette. Et parce que l'histoire c'est aussi des mots, j'aurai comme tous les jours le mot de la fin. Et je peux déjà vous dire que ce sera YOLO.
YOLO, vous êtes en roue libre totale Stéphane, j'adore ça.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Cet après-midi, trois hommes, trois destins plus verts qu'on ne l'imaginait. Voici maintenant le portrait d'un autre écolo avant l'heure. Dès 1972, il était hyper optimiste.
J'osais pas, nous vivons l'agonie d'une civilisation. La fin d'un monde.
Voici l'histoire de Louis de Funès, pionnier de l'écologie par Stéphane Bern, l'homme qui cultive des pommes dans son jardin.
Historiquement vôtre. Le récit.
Et oui, cher Mathieu, comme moi, voire même un peu plus, Louis de Funès, l'acteur devenu culte, notamment pour ses gesticulations et ses grimaces, était aussi passionné de jardinage. Et surtout, un homme derrière le comédien qui prônait bien avant tout le monde l'agriculture biologique. Comme il l'explique à l'époque dans son jardin et devant ses tomates, il y a plus de 40 ans, en mai 1979. Écoutez.
Ça, ce sont des tomates, ça ne sont pas d'hybrides. Moi, je n'aime pas les hybrides, je me méfie des hybrides. Ce sont les vieilles tomates d'autrefois qui s'appellent de la marmande, c'est très bon, c'est très bon. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques, aucun. Je me rappelle, j'en foutais partout avec partout les pucerons, j'arrêtais pas de mettre des granulés, des horreurs. Le jour où j'ai arrêté ça, il y avait déjà beaucoup moins de pucerons, et ça s'est calmé, je ne soignais plus rien, les plantes n'étaient plus malades, elles allaient déjà mieux, les plantes. Et respirer.
Ce qui est fou, Stéphane, c'est qu'il a les intonations dans la vie, comme dans les films, il dit paf, des poumes, des pucerons, paf, c'était vraiment très, très, très reconnaissable.
Le grand public découvre là cet acteur hors pair sous un jour nouveau, celui d'un militant ardent défenseur de la nature. Louis de Funès tient des propos d'une étonnante modernité. Quand il donne cette interview, Louis de Funès est déjà célèbre. À l'écran, ses films sont devenus cultes. Oscar, La folie des grandeurs, La soupe aux choux, encore Hibernatus. Et son personnage impulsif, irascible et ses mimiques inimitables ont fait de lui l'un des acteurs préférés des Français. Pourtant, Louis de Funès a connu le succès tardivement. Il a plus de 40 ans quand il obtient un second rôle dans La traversée de Paris aux côtés de Jean Gabin et de Bourvil en 1956. Au cours de la décennie qui suit, il est à l'affiche de plusieurs succès populaires comme Pouic Pouic, la trilogie de Fantomas ou encore Le gendarme de Saint-Tropez. Comme dans ses films, Louis de Funès mène une vie à 100 à l'heure. Sur les tournages, il mobilise toute son énergie, ce qui l'épuise. En 1967, à la recherche d'un peu de sérénité, il quitte Paris avec son épouse Jeanne pour s'établir au château de Clermont, situé au Cellier, près de Nantes. Ce majestueux château de 30 pièces domine la Loire. Le cadre est idyllique, mais surtout, le parc est immense. Pas moins de 90 hectares sur lesquels Louis de Funès peut donner libre cours à son amour pour le jardinage. Au jardin, j'ai trouvé le calme, le charme de la nature, du potager, du bruit des abeilles. Cela me restera jusqu'à la fin de mes jours, je crois, déclare-t-il à l'époque. Chaque matin, quand il n'est pas en tournage, sa femme, ses enfants et ses petits-enfants le voient partir à l'aube, armé de son sécateur.
Il porte aussi un passe-montagne qui lui permet de jardiner sans avoir froid l'hiver, mais aussi de passer incognito. Tomates, salades, courgettes, pommes dans son potager et son verger, Louis de Funès cultive de quoi nourrir toute sa famille, mais aussi les voisins. Chaque semaine, l'acteur se rend au village, les bras chargés de cajots de fruits et légumes qu'il offre aux habitants. Pour Louis de Funès, le jardinage est une affaire de famille. Enfant, il fait pousser des salades aux côtés de son père qui s'occupe lui aussi du jardin familial. Carlos Luis de Funès de Galarza, le père du célèbre acteur, mérite d'ailleurs qu'on s'attarde un peu sur son cas.
Ah oui.
D'origine espagnole, il gagne sa vie en fabriquant des émeraudes de synthèse. Le hic, c'est qu'il est daltonien et ne fait pas la différence entre le vert et le rouge.
Comme notre Karl Marx tout à l'heure.
Sauf que là, voyez-vous, Mathieu, la faillite est inévitable. Au début des années 30, il fait croire à son suicide et s'enfuit au Venezuela pour faire fortune. Apprenant le subterfuge, son épouse va le chercher et le ramène par la peau des fesses. La mère de Luis de Funès, Léonore, vaut d'ailleurs aussi le détour. Ses colères sont légendaires. Il lui arrive de courser le petit Louis autour de la table en criant avec son accent espagnol « Llévete tué !» L'acteur
entre les imitations de Funès et les imitations de l'accent espagnol, on est à un trop niveau cet après-midi. Oui.
L'acteur confiera plus tard qu'elle possédait, sans le savoir, le génie des planches. Ce sens du comique, Léonore de Funès le transmet à son fils, au grand désespoir de ses professeurs. Inscrit au pensionnat, le petit Louis n'écoute pas en classe, se désintéresse de la géographie ou des mathématiques, faire rire ses camarades et pêcher en écoutant le chant des oiseaux, voilà tout ce qui l'intéresse. Cela ne changera pas beaucoup en grandissant, vous vous en doutez.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre spécial, ils étaient tous verts, continue à la rencontre de ces personnages de l'histoire qui, de manière évidente comme Hulk ou plus subtil comme Karl Marx, étaient précurseurs de l'écologie. Parmi eux aussi, Louis de Funès, dont Stéphane Bern nous raconte le côté écolo cet après-midi.
Avide de connaissances, Louis de Funès, qui est déjà un acteur célèbre, prend des cours au potager du roi à Versailles pour apprendre la culture des légumes anciens, se documentant sans cesse. Il lit quantité de livres dans le domaine du jardinage, jardin qui occupe une large place dans sa vie, comme je vous l'ai déjà dit. Un jour, comme une révélation, il prend donc la décision de bannir engrais chimiques, herbicides et pesticides industriels, cultivant tout son jardin, son potager et son verger en culture biologique. Louis de Funès ne s'arrête pas là, il s'engage contre la malbouffe dont il a horreur et l'industrialisation à l'excès. Ces thèmes sont d'ailleurs abordés dans le film « L'aile ou la cuisse » de Claude Zidi. Au cas où vous l'auriez oublié, ou si vous n'avez jamais vu ce film sorti en 1976 et diffusé des dizaines de fois à la télévision, Louis de Funès y campe le rôle de Charles Duchemin, un critique gastronomique en guerre contre une chaîne de restauration industrielle.
C'est pas très bon, hein.
C'est même très mauvais.
Oui. Oh. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde.
Hein? Eh oui. Mais au relais de cigales, c'en était déjà.
Oh, peut-être. Oui, mais c'était moi qui la faisais.
Hein? Parce que là, c'est pas vous?
Ah non. Oh. Tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout.
Louis de Funès est un écolo avant l'heure. Dans ses interviews, l'acteur ne se prive pas de dénoncer la dégradation de l'environnement et la pollution des eaux. Et en 1978, dans l'un de ses derniers films, La Zizanie, il campe cette fois le rôle d'un industriel spécialisé dans la lutte anti-pollution. Un rôle qui lui va comme un gant. Si c'était à refaire, Louis de Funès confesse qu'il aurait aimé être horticulteur. Au château de Clermont, il consacre de longues heures à ses rosiers et songe même à créer lui-même une nouvelle variété de roses, mais il n'en aura pas eu le temps. Une variété de roses porte pourtant son nom aujourd'hui. La société horticole Meillant rend hommage au célèbre acteur en inventant la rose, Louis de Funès, qui est encore aujourd'hui très populaire et apprécié des amoureux des jardins. Une rose imaginée en 1984, quelques mois seulement après la mort de Louis de Funès, qui après une dernière promenade dans le jardin de son château, décède le 27 janvier 1983 d'une crise cardiaque à l'âge de 68 ans.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de ce génie de l'humour, Louis de Funès, nous sommes avec son fils, Olivier de Funès. Bonjour.
Bonjour Olivier de Funès.
Oui, bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez notamment écrit il y a quelques années avec votre frère Patrick, « Louis de Funès ne parlait pas trop de moi, les enfants, au cherche-midi. Il ne voulait pas trop que vous parliez de lui, votre père, parce qu'il n'aimait pas qu'on parle de lui. C'était un homme secret, discret. »
Oui, c'était un homme assez discret, qui aimait la sobriété, dans la vie, vous savez, il n'était pas comme au cinéma. Il était très intéressant, passionnant, très drôle. Mais bon, avec une certaine discrétion. C'était quand même, il n'interprétait pas ses rôles tout de même.
Heureusement
pour vous, sinon ça aurait été dur à la maison. Est-ce que c'est vrai qu'il partait avec son sécateur le matin? Vous le voyez partir dans le jardin, ça c'est
vrai? Oui, tout à fait. Oui. C'est vrai qu'il avait un passe-montagne et il avait mis ça pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et d'ailleurs, à la fin, il mettait même dans Paris. Et que, donc on le reconnaissait tout de suite parce qu'il n'y avait qu'un bonhomme qui avait un passe-montagne, c'était Louis de Funès.
Mais justement, on parle beaucoup de ce qui est incroyable. Il a été l'un des précurseurs à défendre le jardinage sans engrais chimiques, sans pesticides. Vous, quand vous étiez petit, vous alliez dans ce jardin? Vous y aviez accès?
Ah oui, bien sûr, oui, j'y avais accès. Mais je vous rassure tout de suite, il tenait à tout prix à fêter Noël autour d'un sapin. Et en plus, il était passionné du Tour de France.
Un écolo de
c'était
l'ancienne
pas
génération.
Un écolo sectaire, c'est ce que vous voulez dire.
Oui.
Bon, on va continuer à parler de ces écolos avant l'heure et de Louis de Funès en particulier. Et nous avons la chance d'avoir en ligne son fils, Olivier de Funès. C'est dans un instant sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
On le connaissait vert après être tombé dans une cuve de chewing-gum dans les aventures de Rabbi Jacob, mais Louis de Funès a été vert tout au long de sa vie, hors caméra, un écolo avant l'heure dont on parle cet après-midi avec son fils Olivier de Funès. Alors Olivier, d'où lui venait cette fibre écolo? Parce que c'est vrai que donc il était très en avance. Aujourd'hui, tout le monde en parle, tout le monde veut faire un potager bio chez soi quand on en a les moyens. Mais lui, d'où ça vient cette passion pour l'horticulture et surtout pour le bio?
Écoutez, il a toujours été passionné de jardinage, mais l'aspect écologique, si vous voulez, vient sans doute de son observation de la nature. Voyez, il observait beaucoup la nature végétale et aussi animale. Et il était passionné par ça. Il trouvait qu'il y avait un rythme que les humains feraient bien d'adopter, d'ailleurs. Et à force d'observer, il s'est rendu compte que lorsque on ne voulait pas de résultats extraordinaires tout de suite, la nature faisait bien les choses et que le résultat était 100 fois meilleur, que les légumes, les fruits étaient délicieux. Voilà, c'est venu comme ça. Et c'est une histoire de respect, vous savez, vis-à-vis de la vie. Voilà.
Mais il y a une chose incroyable, Olivier, c'est qu'on le décrit donc comme pionnier de l'écologie, amoureux de la flore et des animaux. C'est vrai qu'un jour, il a été jusqu'à repoissonner, je ne sais pas comment on dit.
Repoissonner.
Oui, réempoissonner la Loire, c'est-à-dire la repeupler de poissons, parce que c'est vrai qu'il y avait de moins en moins, à cause des péniches, il y avait de moins en moins de poissons dans la Loire. Il a été remettre des poissons?
Oui, alors c'est paradoxal, parce qu'il était pêcheur lui-même. Donc, de nos jours, on dirait que ce n'est pas possible. Un écologiste qui pêche, ça ne va pas. Il était pêcheur lui-même, donc il savait très bien, il connaissait très bien l'état de la Loire. Et à cette époque-là, il y avait des énormes barges qui draguait le sable, parce que le sable de Loire se vendait très cher. Et résultat, il y avait de moins en moins de poissons. Et il a été saisi par, je crois que c'est une association de défense de l'environnement, et ça l'a tout de suite intéressé. Mais vous savez, ça n'était pas un militant, je pense. Mais il aidait les militants, il les comprenait très bien.
Mais Olivier de Funès, vous dites, c'est pas un militant? Aujourd'hui, où le débat est sur la table, il ne s'engagerait pas, il ne soutiendrait pas un candidat écolo ou un parti ou des idées même écolo publiquement?
Non, c'était pas son truc. Lui, vous savez, il voulait faire rire les gens, faire son métier, plaire à son public. La politique ne l'intéressait pas du tout. En revanche, il comprenait très bien ces gens-là, et lorsqu'il y a eu ce problème de Loire, il les a très bien compris, il les a soutenus, et il a été même jusqu'à dire, alors qu'il n'était pas un vrai militant, « Si vous descendez dans la rue, j'y serai, vous voyez, avec vous ». Alors ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était pêcheur, il a réempoissonné la Loire. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça a coûté, je ne m'en souviens plus. Mais il a fait un chèque énorme pour réempoissonner la Loire.
C'est incroyable.
Vous voyez?
Quand vous étiez enfant, Olivier de Funès, j'imagine on avait sur la table tous les produits du jardin.
Oui.
Il veillait à votre alimentation, il n'y avait pas de malbouffe chez vous. Vous avez interdiction.
Vous avez vraiment fait de McDo?
Jamais, oui, c'est ça, jamais un... des choses interdites ?
Non, non, alors attendez, de toute manière, vous savez, il vivait d'une façon très simple hein, au oui. château de Clermont. On déjeunait la plupart du temps dans la cuisine et la cuisine donnait sur le potager. Donc vous voyez, il avait inventé les circuits courts du producteur au consommateur déjà. C'est formidable. Alors ah, oui. évidemment, on mangeait des légumes extraordinaires, bah, bien sûr.
Au cinéma aussi, on se souvient de ses rôles, on a l'impression qu'il trouvait l'inspiration dans l'animal, Pivert, dans les aventures de Rabbi Jacob, le perroquet de la folie des grandeurs. Vous disiez tout à l'heure ce mot, sa qualité c'était l'observation. Il observait la nature pour l'horticulture et il observait les gens pour ses rôles de cinéma.
Oui, tout à fait, c'était exactement la même chose. Bon, alors il observait avec beaucoup de respect la nature animale, un peu moins de respect la nature humaine, mais justement, il en tirait tous les défauts et c'est ce qui lui donnait la richesse de son interprétation.
Alors, un mot quand même, Olivier de Funès, en ce moment à la Cinémathèque de Paris, il y a une formidable ouais. exposition qui est dédiée à Louis de Funès, sa filmographie, sa vie. Le voir ainsi célébré par ce haut lieu du cinéma, lui qui a été un peu, je ne dis pas méprisé, mais un peu boudé par la critique parce qu'il faisait rire les gens, j'imagine que cette reconnaissance vous touche beaucoup.
Bien sûr, bien sûr, ben c'est formidable. Parce que oui, en plus, il était détesté, par, non pas par les gens actuels de la Cinémathèque, mais il y a 40 ou 50 ans, les gens qui tenaient la Cinémathèque n'aimaient pas du tout les acteurs comiques. Hein. Donc, non, non, oui, c'est formidable. Et puis l'exposition est très, très bien faite. Ça vaut vraiment le coup d'aller la voir. Ouais.
Vous gardez de votre père un souvenir de quelqu'un de très drôle dans la vie. C'est souvent une question qu'on se pose, quand on n'a pas eu accès aux stars de l'humour. Parfois, on dit que les gens très drôles au cinéma sont dans la vie assez sinistres et ça n'a rien à voir à ce qu'ils sont à l'écran et ce qu'ils sont dans la vie. Vous nous confirmez que Louis de Funès était quelqu'un de drôle au quotidien, en fait.
Oui, 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 tout à fait. Moi, c'est le mythe du clown triste auquel je ne crois absolument pas. Mais non, non, il était très drôle. Tous les gens qui l'ont connu en privé, d'ailleurs, il était drôle d'une autre façon. Hein. Il n'interprétait pas drôle, mais il prenait la vie avec un tel recul et un tel humour que c'était extraordinaire. Ah oui, oui, il était très drôle.
Écoutez, merci Olivier de Funès d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir désobéi à votre père quelque part. Hein, lui qui vous avait dit « Ne parlez pas trop de moi les enfants
ben ». Voilà.
C'est le titre de votre livre paru au Cherche Midi.
En tout cas, c'est fou comme on l'aime, Louis de Funès.
C'est vrai que c'est quelqu'un qui est attachant. Ben, ouais. Il est dans nos esprits à tous, dans nos cœurs à tous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, dans Historiquement Vôtre, on retrace les destins de trois personnages ayant un point commun. Aujourd'hui, celui d'avoir été vert avant l'heure. Parmi ces pionniers de l'écologie, je vous ai raconté Karl Marx et Louis de Funès. Reste à découvrir maintenant avec vous, Mathieu, notre troisième portrait du jour, un portrait à 99% vrai d'une autre figure verte de l'histoire.
Eh bien, Stéphane, vous pensez certainement que pour vous faire sourire, je choisirais un personnage vert, mais totalement anecdotique, comme Shrek, le Grinch ou le bonhomme 7LM, voire l'émoji vomi-joue qui gonfle. Ça serait bien mal me connaître, Stéphane. Soyons sérieux, je vous parle aujourd'hui d'un type qui a fait, un tout petit peu plus pour l'écologie que Karl Marx, ne serait-ce qu'en popularisant auprès des jeunes la couleur verte, l'incroyable Hulk. Un portrait qui s'annonce win-win, Stéphane, de l'écologie pour moi, des muscles pour vous, et surtout de l'action. Je dirais enfin dans cette émission de l'action, parce que ça va nous faire du bien. C'est vrai qu'ici, en termes d'action, de rebondissement, c'est assez limité. Pour l'instant, la plus grande aventure qu'on ait vécue à ce micro, c'est l'autre jour en antenne, quand vous avez perdu votre bonnette.
Et tu as ma bonnette ?
Mon Dieu, on a volé la bonnette de Stéphane Bern.
Vous avez la vidéo surveillance ?
Alors, si comme Stéphane enfant, vous aviez interdiction de lire des BD Marvel, et qu'à la place, vos parents vous avaient abonné à Passion Consanguinité, le magazine des nobles qui aiment se marier entre cousins. L'incroyable Hulk est un personnage créé en 1962, un super-héros doté d'une force herculéenne qui peut d'un coup de poing détruire un immeuble entier. Physiquement, on peut résumer en disant que c'est une version virile et américaine de notre géant vert des pubs Bonduelle. Vous savez, personnage ambigu sexuellement qui affiche en toutes circonstances un sourire niais et passe ses journées à cueillir du maïs afin de le mettre en conserve vêtu d'une robe de cocktail asymétrique constituée d'une feuille de vigne. Et Hulk, lui, est plus brut de décoffrage. Bestial, féroce, sans pitié, enfin... Quand il se transforme, parce qu'à la base, Hulk, c'est pas un super-héros musculeux, c'est un toubib tout chétif. Un mec timide nommé Bruce Banner, médecin brillant, mais hyper gauche, presque handicapé socialement, qui bosse pour l'armée sur une nouvelle arme nucléaire, et lors d'une expérience patatras, comme il est super maladroit, il se fait irradier de rayons gamma. Voilà Tipa que quelque chose change en lui. Il se sent tout drôle.
Je fais cette merde.
Il change de couleur, sa femme appelle sa mère et lui dit paniquée.
Il est très très vert.
Ses muscles gonflent à vue d'œil, ses biceps se déchirent sa chemise, son taux de testostérone explose. Il devient l'incroyable Hulk et inaugure son nouveau statut de super-héros vert par un acte dont nul ne pourra nier la puissance symbolique écolo. Il défonce à main nue une Jeep de l'armée américaine. C'est pas anodin, cette Jeep émettait beaucoup trop de CO2.
Bah oui.
Car oui, on pourrait tenter de ne voir dans cette transformation qu'une parabole banale sur cette colère qu'on a tous au fond de nous et qui parfois explose, comme quand, après trois tequila paf, ce collègue de bureau, d'habitude si discret et renfermé, se met soudain à danser sur les tables en plotant des stagiaires et finit vers 3h du mat par pisser dans le UK de l'Open Space.
Non. David Castello-Lopez.
Pas de nom, c'est pas de nom, s'il vous plaît, non, on l'avait reconnu.
C'est MeToo, attention.
Non, mais Hulk, c'est plus que ça. Grâce à l'acteur qu'il interprète depuis plusieurs années à l'écran, Mark Ruffalo. Pour vous la faire courte, Mark Ruffalo, c'est un artiste engagé, militant écologiste, limite bobo décroissant abonné à Alter Echo, qui ne circule qu'à bicyclette et qui fait lui-même son compost. Bref, Stéphane, ce que votre ami le président Macron appelle un amiche. Un fervent défenseur de l'environnement, en tout cas, qui, on le sent, aurait rêvé de faire des films indépendants, plein de sens, tournés dans un drame sociétal de Ken Loach, mais qui, par les hasards de la vie, s'est retrouvé dans Avengers, et dont la réplique la plus complexe à ce jour est... Alors, après quelques épisodes d'Avengers à hurler « Uuuh » devant un fond vert, le type se dit « Comment concilier mon personnage de Hulk, qui est quand même complètement con, et mon engagement écologique ? Et si je m'impliquais dans le scénario du prochain Hulk pour en faire un champion vert ?» Pas idiot, le type est déjà vert, un poil plus charismatique que Yannick Jadot, ça peut jouer. Marc y croit dur comme fer, les studios hollywoodiens visiblement un peu moins, puisque depuis 2014, on attend toujours ce nouveau Hulk Greta Thunberg compatible, ne vient pas. Visiblement, certaines propositions de Mark Ruffalo, à savoir que désormais Hulk ne détruise plus d'habitations sauf celles qui ne respectent pas les normes d'isolation thermique 2020 et qu'il ne bousille plus de bagnoles sauf celles qui n'ont pas de filtre à particules, embarrassent un peu les studios qui ne savent plus trop comment lui faire comprendre qu'il ferait mieux d'aller tourner directement un documentaire avec Michael Moore que d'essayer à tout prix de faire de Hulk un Nicolas Hulot protéiné. C'est pas grave, au moins il aura essayé. Au fait, Stéphane, regardez, j'ai trouvé votre bonnette, elle était sous la table. Que d'action dans cette émission, c'est dingue, je me demande ce que les jeunes foutent encore sur Énergie, Stéphane.
Oh, merci Mathieu. C'était votre portrait à 99% vrai. Bon, il y a donc un truc à 1% qu'il faut.
Mais tout était vrai sur Mark Ruffalo, sur Hulk, mais David Castello-Lopez n'a jamais pissé dans le UK de l'Open Space. En revanche, dans le film...
Et moi, j'ai jamais lu un magazine de consanguinité.
C'est vrai ? Consanguin magazine ?
Non, ça n'existe pas.
C'est dommage.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Une émission tournée vers le passé dans l'unique mesure où il peut nous éclairer sur notre présent. Par exemple, pour comprendre l'origine d'une recette, voici cette chronique qu'on aurait pu baptiser « Intestinalement vôtre ». Pas assez chic à trancher Stéphane, moi je trouvais ça bien.
Et cet après-midi, Olivier Pouls, vous nous parlez de la baguette de pain que beaucoup ont appris à fabriquer pendant le confinement.
Oui, c'était une des best occupations, on va dire, des Français pendant le confinement, c'était de faire du pain et donc forcément de faire des baguettes. Alors le pain, ça fait très longtemps qu'il fait partie de notre quotidien, il est très intimement lié à l'histoire de France. En 1793, il y a le fameux décret pain égalité qui finit par justement aplanir les inégalités qu'il y avait entre les riches qui mangeaient du pain blanc fait avec la fleur de la farine et les pauvres qui mangeaient un pain moins qualitatif qui était fait avec le son. Et apparaît ensuite la fameuse baguette.
Alors elle apparaît quand cette baguette ?
Ben voilà, il y a trois hypothèses aujourd'hui, parce que les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Alors je vais vous livrer les trois et vous ferez votre choix, vous voterez. Alors, première théorie, on la devrait à un Autrichien, un certain Auguste Zang, qui a ouvert en 1839 à Paris une boulangerie-pâtisserie et il se serait inspiré de petits pains typiques qu'on trouvait en Autriche, donc de forme un petit peu longue et surtout, ça avait l'avantage d'avoir des temps de pousse qui étaient plus courts que les pains classiques, que les miches qu'on faisait. Et c'est arrivé avec une réglementation contraignante pour les boulangers qui ne pouvaient pas faire leur pain avant 4 heures du matin. Donc ils ne pouvaient commencer qu'à 4 heures.
Donc il fallait que ça aille vite.
Il fallait que ça aille vite. Bon, première hypothèse.
Moi, je ne veux pas croire qu'un Autrichien ait inventé la baguette. Je ne sais pas vous,
bon,
Stéphane.
Ma fibre patriotique me l'interdit.
Non. Voilà. Alors, votre fibre patriotique va peut-être vibrer avec cette histoire de Napoléon. Ah. Napoléon Bonaparte, qui aurait demandé à ses boulangers d'élaborer un pain qui soit compatible avec le mouvement de ses troupes. Donc, un pain qui soit transportable facilement par les soldats.
En quoi la baguette est plus transportable qu'un autre pain ? C'est long quand même.
Justement, parce qu'elle est longue et on pouvait donc l'enfourner, si je puis dire, dans la poche du pantalon et c'était plus pratique.
Une baguette dans la poche quand même.
Vous avez déjà vu des militaires napoléoniens?
On les voit pas trop avec une baguette sur le dos. Enfin, c'est l'une des théories. Alors, Napoléon III, qui est arrivé un peu plus tard, lui, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a fixé le décret du poids de la baguette et de sa taille à l'époque, qui était 400 grammes pour 40 cm. Et la troisième hypothèse est liée à la construction du métro à Paris, début XXe siècle. Et il y avait des ouvriers qui venaient de nombreuses régions françaises et qui avaient souvent l'habitude, pour des raisons un peu communautaristes, d'en venir aux mains, et notamment d'en venir au couteau. Il y avait pas mal de meurtres et d'accidents avec des bagarres au couteau. Et donc, la direction aurait demandé à l'époque qu'on élabore un pain qui soit partageable, rompable, à la main, sans qu'on ait besoin d'utiliser
le couteau. Ça, c'est plus séduisant que
moi. Si on a le droit de réécrire l'histoire avec Stéphane, on décide que c'est ça.
Voilà, alors choisissez la vôtre, on va l'attribuer donc à la construction du métro, c'est ça.
En plus, c'est un côté très baguette parisienne, vous voyez.
Cette baguette parisienne, c'est vrai qu'elle connaît un vrai sort à partir des années 1920, parce que elle est facile à transporter, et puis surtout, elle est très facile à faire pour les boulangers. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on en consomme 10 milliards par an. Alors, je me suis amusé, j'ai rien à faire tout à l'heure, un petit calcul. Si on met toutes les baguettes que nous mangeons par an côte à côte, on
qu'est-ce
peut
que
faire,
vous faites mercredi
on
soir
peut faire
à dîner
10 fois le tour de la Terre, figurez-vous.
Incroyable.
10
fois le tour de la Terre. Pourquoi elle n'est bonne qu'à Paris?
Alors, là, je vous laisse.
Alors, Stéphane, on vous laisse la responsabilité de vos propos.
Non, mais tous les boulangers amis de province vont
non,
recevoir
mais, Paris, moi, je fais le tour de France, et c'est pas la même recette.
Mais non, mais alors là, la recette est la même. Il est vrai qu'il y a quelques années, trouver de la bonne baguette, même à Paris, c'était presque impossible.
Oui.
Il n'y avait plus que de la baguette industrielle.
Oui.
Et depuis quelques années, à Paris, mais aussi dans beaucoup de belles villes de province, il y a, je trouve, de la part des boulangers, la volonté de refaire un vrai bon pain. Et d'ailleurs,
mais c'est plus compliqué, c'est à quoi ça tient?
Vous savez, quand vous allez chez votre boulanger, vous pouvez demander une baguette tout simple, vous pouvez demander
la tradition.
Tradition.
Ah, moi, je demande toujours la tradition.
Moi aussi, la tradition.
La tradition, elle est encadrée.
Ah, voilà.
La tradition, ça veut dire que vous avez une baguette qui est fabriquée et cuite sur place, et non pas un pâton congelé qui arrive de je ne sais où, et qu'il n'y a pas d'additif. Parce qu'en fait, pour faire une baguette, c'est très simple. Il faut de la farine, de l'eau, de la levure et un peu de sel. Et c'est vous pouvez la faire chez... Il n'y a que ça dans une baguette tradition.
Qu'on fasse notre tradition nous-mêmes.
Alors, la grande difficulté, en fait, c'est de trouver une très bonne farine de blé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... la farine industrielle qu'on nous vend est très riche en gluten et pas toujours très bonne en termes de goût. Donc si on a une très bonne farine de blé, notamment de variétés de blé plus anciens, il faut 1 kg de farine pour 700 g d'eau. L'eau la plus pure, là aussi on ne prend pas de l'eau du robinet qui a un petit goût un peu javelisé. Prenez de l'eau en bouteille qui n'a pas de goût, votre pain n'en sera que meilleur. Il vous faut 8 g de levure de boulanger et 22 g de sel. Ça c'est pour faire environ 7-8 baguettes. Et donc la grande difficulté, c'est de gérer les temps de pause. C'est-à-dire que vous allez mélanger la farine, l'eau, le sel, on ajoute la levure que après. Parce que la levure n'aime pas le sel, et en fait le sel va détruire la levure, donc il faut d'abord bien tout incorporer avant de rajouter la levure. Et ensuite on va pétrir, on va laisser pousser, on va rabattre, on va relaisser pousser, on va faire ça au moins 3 fois. Avant de façonner la baguette et de la cuire 15 minutes dans un four à 250 degrés.
Ah mais on peut le faire dans n'importe quel four en fait, pas 250, il faut qu'il monte à 250 degrés.
Bon, l'idéal c'est même un four de boulanger qui va monter un petit peu plus haut, jusqu'à 300 degrés. Et si vous le faites chez vous... humidifiez votre four avant de mettre vos baguettes à cuire. Ça va donner un croustillant bien supérieur.
Toujours bien humidifié avant d'enfourner la baguette. Stéphane, c'est ce que vous me disiez encore l'autre jour.
Mais non, je ne disais rien.
Si. Alors, merci Olivier. On trouve évidemment toutes vos recettes et l'histoire de celles-ci sur le site europe1.fr.
Mathieu, auriez-vous l'amabilité d'annoncer ce qui suit de manière concise, car je crois qu'on a beaucoup débordé.
Oh, mais bien sûr. Les mots, Stéphane, sont-elles des papillons? Leur naissance, parfois chaotique, ne présage en rien de ce qu'ils deviendront avec le temps, comme la chenille qui, par l'entremise de la chrysalide, va peu à peu se transformer. Les mots...
Mais là, on perd beaucoup de monde. Ah, moi, je vais vous montrer. On dit, maintenant, le mot de la fin.
Ah ouais, fort.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Personnellement, j'avais dit que la chronique littéraire de cette émission, celle où on vous dévoile l'origine d'un mot ou d'une expression, aurait dû échoir à quelqu'un maniant la langue de Molière avec brio et sans concession au mode passagère comme celle du Verlan. Bon, ils ont choisi Stéphane Bern, dont le français est ce qu'il est.
Il l'a pas pécho, comme on dit.
Pourquoi pas ? Stéphane, de quelle expression nous parlez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, j'en ai choisi 3.
Vous avez la chance pour le prix d'une ou on va devoir payer un supplément?
Non, non. Vous avez la chance d'avoir un jeune bambin à la maison qui utilise encore un langage châtié. Mais attention, l'adolescence guette. Et bientôt, votre pétillant petit bonhomme va se transformer en ado mou parlant un langage abscon. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit point non exhaustif des différentes expressions utilisées actuellement par les jeunes et souvent totalement incompréhensibles par les adultes, dont moi, il faut bien le dire. Première expression, faire le thug.
Le thug?
Oui.
Le thug.
Oui, vous le dites comment vous?
Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le dire. Le thug, moi je dirais le thug.
Le thug,
mais
faites le thug.
Mais, oui, parce que si vous dites faire le thug à un ado, je ne pense pas qu'il...
Alors, faire le thug.
Qu'est-ce que c'est faire le thug?
Vous
c'est faire le
pas.
Fanfaron?
C'est faire le rebelle.
Ah bah, ah,
on dit arrête de faire le thug. Bah, il faut savoir que les thugs... Ça, on le disait comme ça, à l'époque, était une confrérie d'assassins qui ont résisté aux Anglais au XIIIe siècle pendant la colonisation de l'Inde. Autre expression, YOLO. Avant d'utiliser cette interjection, comprenez-en bien le sens. C'est un acronyme reprenant une phrase anglaise, You live life once. On ne vit qu'une fois. Il faut donc profiter de la vie. Autrement dit, version nouvelle de Carpe Diem.
C'était très bien Carpe Diem, pourquoi changer?
Mais votre ado, votre futur ado...
Oui, il ne dit pas Carpe Diem.
Il dit pas Carpe Diem.
Mais il ne dit pas encore YOLO non plus.
Mais
donc
ça
je
va pas tarder.
Ce...
Maintenant, avoir le seum. Vous connaissez
ça,
cette expression?
Ça, je connais, c'est être en colère, mais arriver d'avoir le seum, ça m'arrive parfois.
Oui. Avoir le seum...
C'est quoi avoir le seum alors?
Eh ben, c'est
ça vient d'où?
Horripilé au plus haut point. Ça vient du mot arabe, voyez-vous, sem, qui signifie venin. Quand on a le seum, on a la rage. Voilà Mathieu, je ne sais pas si vous comprendrez mieux les ados, en tout cas votre ado en devenir, mais en tout cas vous pourrez vous faire mousser avec de nouvelles expressions qui sont, comme on dit chez moi, pas piquer des hannetons.
Oui, comme on dit chez vous, mais c'est le dernier endroit où on dit encore ça.
YOLO. Oui. On dit pas piquer des hannetons?
On dit plus, mais chez nous on le dit. On l'a déjà utilisé 6 fois dans cette émission. C'est l'émission où
c'est
cette expression
c'est le dernier rempart contre la barbarie.
Voilà. Historiquement vôtre, c'est bientôt terminé les amis. Avec Stéphane, on va rentrer chez nous des étoiles plein les yeux. On espère que vous aussi. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui Stéphane?
Écoutez, j'ai beaucoup appris sur Karl Marx grâce à Henri Penel Ruiz.
Ah ça, on a appris au-delà même de ce qu'on pensait apprendre.
Exactement.
C'est ça qui est fou.
J'ai trouvé qu'il en parlait avec passion et puis c'était assez émouvant d'avoir au téléphone Olivier de Funès, vous savez,
très émouvant.
On a cet attachement qu'on a tous, nous Français.
Oui, et puis moi, je pensais bêtement, avec cette théorie selon laquelle les comiques ne sont pas dans la vie, que Louis de Funès était plutôt sinistre, alors que visiblement pas du tout.
Mais même vous, vous êtes drôle
et
dans
même
la vie.
Je suis drôle dans la vie, c'est fou, c'est incroyable.
16h, 18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre se termine, mais Mathieu, séchez vos larmes, car vous savez quoi?
On se retrouve demain.
Vous savez déjà tout.
Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.